Bienvenue dans le podcast de la Maison des Maternelles. Aujourd'hui, Joséphine nous racontera son quotidien de femme de militaire avec ses deux enfants en bas âge. Et puis ensuite, c'est Hélène Romano, psychothérapeute, qui va répondre à toutes les questions sur ce sujet. On voulait rendre un hommage aux femmes de héros, voilà, les épouses de militaires ou de pompiers dont les maris prennent des risques pour mener à bien leur mission, prennent des risques pour nous. Bonjour Joséphine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait tellement plaisir parce que c'est vrai que vous avez une vie singulière, quoi. Donc une vie de famille en tout cas singulière. Vous êtes mariée à Florent, qui est plongeur des mineurs dans la Marine nationale, et ensemble vous avez deux enfants. Il y a Auguste qui a 5 ans et Diane qui a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà votre histoire d'amour? Comment est-ce qu'elle a commencé?
Eh bien, on s'est rencontrés, on était au lycée, dans la même classe, en première. On était dans le même groupe d'amis qu'on appelle les 12, qui sont toujours nos amis. Et puis, progressivement, ça s'est fait. J'étais en première année d'école d'infirmière, lui était en STAPS, et on a commencé à se rapprocher. On est sortis ensemble, en fait, à partir de moments où il s'est engagé. Parce que quand j'ai imaginé que j'allais pouvoir le recroiser sans qu'on soit ensemble, pour moi, c'était pire de le croiser sans qu'on, en oubliant tout ce qui pouvait se passer entre nous, plutôt que de tenter l'expérience.
Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous êtes vous-même fille de militaire, oui, et que vous aviez toujours dit, mais alors ça, il y a un truc, c'est que jamais, mais jamais, je n'épouserai un militaire. Donc, quand il s'est engagé et que vous êtes quand même mise avec lui, qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Au
vous
début,
avez réalisé ce que
pas.
Ça impliquait quand même déjà ou pas?
Non, en fait, au début, j'y croyais pas parce que déjà, quand il m'a dit qu'il avait passé les tests marins-pompiers, pour moi, c'était les pompiers de Paris. Enfin, je pense que j'ai fait un déni dessus complètement. Et après, petit à petit, je le voyais pas du tout là-dedans. Pour moi, c'était...
Oui.
Non, il pouvait pas être militaire. Prof de sport, oui, à fond, mais pas du tout militaire. Et puis après, ça s'est fait progressivement, j'ai lâché prise et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je ne ferai même pas ma vie avec, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête.
On ne se prend pas la tête. Ça consiste en quoi son métier précisément, qu'on comprenne bien?
Alors, son métier, c'est de sécuriser les littoraux, de déminer, donc de faire exploser des mines, que ce soit sur terre ou que ce soit en pleine mer.
Donc, il va déterrer, par exemple, des vieux obus, si on en trouve un, et il les fait sauter, quoi.
Exactement.
Donc, c'est très risqué comme métier.
C'est très risqué. Déjà, pour le fait d'être dans l'armée, c'est risqué, puisque ce sont des hommes qui sont armés, qui acceptent de sacrifier leur vie pour les autres et la sécurité des autres. Ils ont affaire à des hommes armés, en phase 2, sur des théâtres d'opération, dans des pays où c'est la guerre, hein, sincèrement. Après, il est plongeur, donc il y a le risque lié à la plongée, les œdèmes aigus pulmonaires, les arrêts cardio-respiratoires sous l'eau, la narcose aussi, qui est l'ivresse des profondeurs, qui les appelle. Il plonge des fois à plus de 80 mètres au maximum.
Oh là là.
Et après, il y a le risque des explosifs, d'être en contact permanent avec les explosifs.
Il ne faut pas être angoissée. Hein. Bon, vous l'avez quand même épousé. Hein.
Je me suis quand même mariée avec, je lui ai dit oui.
En 2017, est-ce que vous avez quand même eu des doutes avant de vous engager? Vous êtes quelqu'un d'anxieuse?
Oui, de base, je suis anxieuse. Et il a toujours été fait sur moi de m'apaiser. Et avec lui, je ne me projetais pas. Donc, je ne me suis jamais projetée. Alors, c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir tout découvert, comme si justement, je n'étais pas du tout issue de ce milieu-là. J'ai eu un moment de panique, c'est au moment où j'ai tout quitté la première fois. Quand j'ai fini mon école d'infirmière, que je l'ai rejoint dans le Sud, là, j'ai eu un gros moment de panique dans mes cartons. Il était en mer, je savais que j'arriverais, il ne serait pas là pour m'accueillir, puisqu'il était en mission. Là, j'ai eu un gros, gros moment de panique. Après, le mariage, non, c'était la suite logique pour moi.
Alors, l'année qui suit votre mariage, vous allez donner naissance donc au petit Auguste. 2 ans plus tard, il y a Diane. Florent a pu être là à vos accouchements. Mais 3 semaines après la naissance d'Auguste, par exemple, et 5 mois après celle de Diane, il est reparti en mission. Donc ça, c'est terrible, parce qu'on sait qu'on en parle toute la journée dans cette émission. On sait à quel point on est fragile après avoir accouché. Comment vous avez vécu ça, vous?
Alors, déjà, le tourbillon de la maternité, moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. On m'avait toujours dit que c'était que du bonheur.
Oui,
et
bah,
je l'ai cru.
Ça, on entend ça depuis des générations. Et puis, heureusement, il y a des émissions comme la nôtre.
Exactement.
Pour remettre les choses à leur juste place.
Donc, pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout que du bonheur. Au départ, si, les premières semaines se sont très bien passées. Et sauf qu'on avait un enfant qui avait un frein restrictif de langue. Mmh. Et à l'époque, personne ne s'en occupait pour mon fils puisqu'il prenait du poids, sauf que c'était un bébé qui était déjà avec beaucoup de pleurs, des souffrances. En fait, il a souffert de RGO. Tout est passé à la trappe du fait que je sois femme de marin. Parce qu'on me disait, ah mais c'est simple, mais papa est là en ce moment. Si papa n'était pas là, c'était de la faute de maman, puisqu'elle était anxieuse, donc bébé pleurait beaucoup. C'est mon mari qui, au bout d'un an, m'a dit, mais non, en fait, notre fils est malade, que je sois là ou pas, ça n'a rien à voir avec toi. Mais moi, du coup, je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais isolée, pas soutenue du tout par les professionnels de santé, parce que j'avais l'impression de passer à quelque chose,
de passer à côté de quelque chose
pour mon fils, ce qui a été le cas au final. Mais donc, un bébé qui pleurait beaucoup, qui était malade, il a fini hospitalisé. Moi, je finissais par rattraper tout ce qu'il avait, tellement je ne dormais pas de jour comme de nuit. C'était en porte-bébé toute la journée, toute la nuit. Donc, j'ai perdu du poids, je ne dormais plus. Et je me souviens de mon mari qui m'appelle, il devait rentrer la semaine suivante. Et il me dit, écoute, je suis désolée, je crois qu'on ne rentrera pas. Le bateau a cassé, on ne rentre pas. Et là, j'ai pleuré et je lui ai dit cette phrase, il faut que tu rentres absolument, je vais mourir. J'avais cette sensation que j'allais mourir. Donc, pour mon fils, on a survécu. J'ai survécu.
Oui. Et vous portiez tout toute seule, avec en filigrane de tout ça, votre angoisse que vous portez à chaque fois que votre mari est en mission. Donc, on se met à votre place. C'est vraiment difficile. Comment est-ce que vous avez fait pour que Florent puisse tisser un lien quand même avec les enfants à distance? Enfin, comment il a fait, lui, surtout?
Bah, très naturellement, puisque c'est un papa, quand il est là, qui est énormément présent. Qui donne même l'habitude aux enfants d'être trop à sa disposition quand ils sont là, mais quand il est là, pardon. Mais il est très présent. On a essayé les vidéos avec mon fils. Ça a été une catastrophe.
Oui, il faut d'ailleurs peut-être donner le conseil à nos téléspectateurs, faire attention au FaceTime. Parfois, c'est pire.
C'est pire, tout à fait.
Ils ne comprennent pas bien, les enfants.
Non, en fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils ont cette frustration de ne pas pouvoir toucher l'écran. Ils ont cette impression que l'adulte est là, en fait. Il n'est pas là, il ne peut pas le toucher. Il y a un décalage entre ce que dit la personne en face et ce que l'enfant dit. Donc, c'est frustrant pour tout le monde. Les communications peuvent couper. Et en fait, après, nous, on essuie les pots cassés. À la maison, c'était l'enfer. C'était des crises de colère, des crises de larmes.
Donc, ils vivent mal les absences de leur père aussi, les enfants?
Oui. Mon fils, surtout, a toujours mal vécu. Là, il commence à verbaliser, donc c'est plus facile. Mais c'était des moments où, quand il a pu le verbaliser, ça a été beaucoup mieux.
Et il vous pose des questions, justement, sur le métier de leur père, parce que ça doit être difficile de répondre, clairement.
Mon fils vit clairement le métier à travers son papa et ses collègues. Il a énormément d'admiration pour eux. Il passe son temps à regarder les livres, à se déguiser en plongeur. L'été, il est déguisé en plongeur sur la plage.
C'est un peu son héros quand même.
Tout à fait, c'est son héros. Ma fille, elle demande surtout quand est-ce qu'on va chercher papa. Dès qu'on monte dans la voiture, c'est chercher papa. Et voilà, ça l'empêchait de dormir. Maintenant, elle s'y est plus habituée. J'ai mis en place des albums photos. En fait, c'est ce qui marche super bien. Ils vont les chercher d'eux-mêmes quand ils en ont besoin. Même des fois, ils sont que tous les deux. Je les entends. Papa te manque. Donc, ils verbalisent. Papa manque. Et là, ils vont chercher les albums photos. Ils se jettent dedans. Et ça passe.
Mais qu'on comprenne bien, en fait, votre quotidien, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire qu'il est là à quelle fréquence?
Eh bien, en fait, c'est le plus difficile.
C'est-à-dire on ne sait jamais, en fait, à l'avance.
On ne sait jamais. C'est le plus épuisant, c'est qu'il va nous dire « je suis là pendant cette période donnée » et en fait, ça va être le coup de fil. Trois semaines après, il doit partir en catastrophe.
Des fois, on ne sait pas pour combien de temps il part ou on sait plus ou moins
C'est toujours l'incertitude, non. Il y a une date, mais qui n'est jamais celle du retour. Des fois, c'est rarement en avance, mais plus souvent décalé.
Donc, vous gérez absolument tout dans le quotidien, y compris les pleurs, vos propres pleurs aussi, vos propres angoisses, qu'on comprend aisément. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, bon, allez, j'arrête, quoi. J'ai envie d'avoir une vie normale.
Si.
Je pars, quoi.
C'est ça, il y a des moments, c'est super chouette, parce qu'on se rend compte qu'on est capable, on se sent vraiment comme Wonder Woman. J'assure sur tous les fronts, je suis capable de tout gérer, je gère à fond. Et puis, il y a d'autres fois, on est au fond du trou. En fait, on en a marre. On se demande pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit à avoir un long fleuve tranquille.
Oui, la famille qu'on imagine.
Exactement.
C'est-à-dire que quand je ne vais pas bien, c'est le papa qui prend le relais et inversement.
C'est ça. Parce que tous les conseils qu'on donne aux jeunes mamans, c'est de passer le relais. Et sauf que quand on ne peut pas, c'est là. Enfin, moi, j'ai failli secouer mon fils. Il avait quelques mois. Je me revois encore. Heureusement, j'étais entourée ce soir. Et pourtant, j'étais entourée. J'étais chez mes parents ce soir-là. Mais j'ai failli le secouer. Non, c'est quand on a justement pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de poser notre enfant, de claquer la porte de la maison et dire bah, « je reviens dans 2 heures ». En fait, on ne peut pas.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'inverse, j'imagine que lui, Florent, quand il rentre de mission, il est crevé et il doit tout donner. Donc, tout est intense dans tous les pans de sa vie aussi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, alors ? Pourquoi vous êtes restée ? Parce qu'on vous écoute, on se dit « ah là là, c'est dur quand même, le quotidien ».
Ça ne donne pas envie, mais en fait, tous les à côté, ça vaut le coup. Maintenant, je suis bien entourée. En fait, voilà, j'ai beaucoup appris sur moi. On a beaucoup appris sur nous deux. Ça m'a donné l'occasion de passer les premières années auprès de mes enfants à 100%. Chose que je n'aurais pas fait si j'étais restée infirmière. Et puis, bah, tout simplement, parce que quand on se retrouve tous les deux, c'est comme quand on avait 18 ans, en fait. On est toujours amoureux.
Il a été fragilisé, votre couple, à un moment ?
Oui, il y a un moment, l'année dernière, notamment, j'ai cru que j'avais plus la force. J'avais plus la force, puisqu'au retour... Au retour de sa mission, j'avais enduré tellement de choses, l'intervention de notre fille toute seule. J'avais été capable de faire front, mais à tel point que je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de lui. Et là, en fait, je me suis dit, si j'ai plus besoin de mon mari, mais justement, pourquoi je suis encore là ? Et en fait, j'ai trouvé que c'était une chance. C'était une chance parce qu'on a cette chance d'être ensemble parce qu'on en a envie. Et on se choisit tous les jours, en fait. Le fait que je sois encore là, ça veut dire que je l'aime encore et que je veux continuer avec lui. Et je sais pourquoi je suis là, je sais ce qu'on a donné avant. Et non, on a toujours envie de continuer. Et je pense que le plus dur est derrière moi, en tout cas. Donc,
vous avez l'impression que vous avez trouvé un équilibre un peu ?
Tout à fait, oui. On a trouvé cet équilibre, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. On a, alors, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, fragilisé. On a été fragilisé, j'ai surtout l'impression qu'on a vieilli dans le bon terme et dans le mauvais. C'est-à-dire qu'on a pris énormément de maturité, puisqu'on s'était rencontrés, on était jeunes. On n'avait jamais parlé d'avenir ensemble et on a su tout affronter. Donc non, je suis assez fière du parcours qu'on a.
Bon, l'avantage de votre quotidien, c'est qu'il n'y a pas de routine. Hein.
Non.
C'est sûr que ça relance l'amour en permanence.
J'aimerais beaucoup avoir un peu de routine de temps en temps.
Hélène Romano, bonjour.
Bonjour, Agathe.
Alors, on vous l'avait dit qu'on vous inviterait quand même pour un sujet un petit peu moins... Voilà, d'habitude, c'est toujours le deuil, des choses très, très tristes avec Hélène. Là, quand même, ça va. Je rappelle que vous êtes docteur en psychopathologie et psychothérapeute. Vous êtes auteur du livre « Les enfants et la guerre ». C'est vrai que là, on entend le témoignage de Joséphine, on est de tout cœur avec elle. Parce qu'en plus, sur quelqu'un qui est angoissé, moi, je la comprends particulièrement. Je me dis, c'est horrible qu'on se réveille la nuit en se disant, dès qu'on a un coup de fil, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave, etc. Mais pour les enfants, est-ce que cette distance, elle peut avoir des conséquences ?
Alors, les enfants, encore une fois, Agathe, ça va du bébé à l'ado, ça va être différent parce qu'ils n'ont pas la même représentation du temps.
Oui,
un bébé,
ça.
Le papa, il part... plusieurs mois, c'est pas pareil qu'un ado, il n'a pas la pensée abstraite, donc c'est extrêmement variable. Les conséquences, elles peuvent être à la fois positives, parce que c'est, dans le témoignage, c'était extrêmement explicité de façon très, 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 oui, très, très positive. Ils acquièrent des ressources. Ils apprennent à gérer l'absence, ils apprennent à gérer les difficultés, tout ça, c'est important. L'aspect négatif, c'est que ça peut créer de l'anxiété, entre autres dans certains métiers, les militaires, parce qu'on n'a pas le droit de tout dire pour des raisons de secret d'État et de protection de l'État. Donc ça peut créer des difficultés, tout dépend comment c'est abordé en famille.
On a reçu une question alors, d'une téléspectatrice qui est maman et qui est aussi fan de militaires. Nous l'a envoyée en vidéo, regardez.
Pour les maternelles, mon mari est sous-marinier dans la Marine nationale et il a dû s'absenter 9 mois pendant les 2 premières années de ma fille. Et à chaque retour de mission, le lien était difficile à refaire entre mon mari et ma fille. Voilà, elle ne voulait que maman, même plusieurs mois après. Donc voilà, j'aimerais quelques clés pour que mon mari reprenne sa place de papa et puisse participer au quotidien auprès de ma fille autant que moi. Voilà, merci beaucoup.
C'est dur, et on l'a un peu évoqué, mais oui. C'est dur pour les femmes, c'est dur aussi pour les hommes qui rentrent et qui ont tout un équilibre à retrouver aussi. Et ils arrivent dans un équipe déjà créé.
C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour l'enfant, pour la maman, pour le papa, pour les grands-parents aussi, certaines fois, qui ont fait les relais parce que papa n'était pas là pour garder les enfants si maman ne pouvait pas. Et quand l'enfant est tout petit, là, visiblement, c'était une petite fille, je trouve plutôt positif, moi, qu'elle manifeste une anxiété, qu'elle manifeste que ça ne va pas, plutôt qu'un enfant qui serait hyper adapté comme si de rien n'était, parce qu'elle exprime sa peur, ses angoisses. Donc, pouvoir en parler et maintenir présent le parent quand il n'est pas là. Donc, ne pas avoir peur des manifestations d'angoisse de l'enfant qui sont là, pour le coup, adaptées. Oui, elle fait la tête à papa parce qu'il est parti, elle a pu du mal à comprendre encore ce qu'elle est petite, lui en vouloir, au moins qu'elle l'extériorise, c'est plutôt positif. Après, il faut en faire quelque chose.
Et donc, on fait exister le papa quand il n'est pas là, à travers des photos, on en parle, c'est ça?
Alors oui, comme le disait votre témoin, il y a les photos, ça sert vraiment beaucoup. Il y a les vidéos, la technologie permet maintenant ça,
ce n'est pas le cas. Les visios,
c'est une révolution, on peut faire des visios en avant. Je pense à des papas qui partent en mission, qui ne seront pas là à Noël, pas là aux anniversaires. Ils laissent un petit message.
Ah, voilà.
Ça permet de laisser exister. Je pense à des papas qui, tous les soirs, font une petite comptine, où il y a le petit mot du soir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Maintenant, ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Ouais. Qui permettent à l'enfant d'intégrer la présence. Plus il est petit, plus il a besoin que papa soit présent, ou maman, parce qu'il y a des mamans militaires aussi, soyons pas sexistes. Et c'est pareil pour les autres métiers où les parents sont absents, peut-être des routiers, peut-être d'autres métiers. Quand le parent n'est pas là H24, qu'il puisse matériellement, symboliquement, être présenté.
Autre question de Justine. Son mari est pompier, regardez.
Bonjour, nous avons constaté que notre fils âgé de 3 ans était plus difficile lorsque son papa, pompier professionnel, revient de ses gardes qui durent généralement 24 heures ou des stages pouvant être un peu plus longs. Comment pouvons-nous l'aider à gérer ses tempêtes émotionnelles, à gérer ses colères et les phases de test qu'il va mettre en place avec notamment son papa? Merci beaucoup.
Alors, papa va être inévitablement un peu le bouc émissaire, le paratonnerre des angoisses, plus que des colères, c'est souvent de l'angoisse que l'enfant a. Ce qui peut l'aider, c'est à essayer de s'approprier ça, à jouer au pompier. Alors, c'était montré tout à l'heure avec beaucoup d'affection, le petit garçon qui était en combinaison de plongeur. Mais moi, je connais beaucoup d'enfants de pompiers qui ont des jouets pompiers, des panoplies pompiers, etc., pour permettre de comprendre qu'est-ce qui lui fait peur et que papa puisse expliquer qu'il a mis tout en place avec ses collègues pour qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de problème, pour mettre des mots sur la peur.
On peut aussi le tourner en positif, parce que pompier, quel est le métier qui fait le plus rêver les enfants que pompier? Il n'y en a pas. À l'âge de 3 ans.
Quand même,
à 3 ans, je pense que pompier, c'est
Benjamin, ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants qui rêvent d'être... qui ont besoin d'être fiers de leur papa, de leur maman. Vous avez un papa militaire, vous avez un papa policier, vous avez un papa soignant. L'enfant, il a besoin d'être fier de son papa, journaliste, de sa maman, de tous les métiers. Être fier de papa ou de maman, c'est extrêmement important, quel que soit le métier. Mais ce qui est important là, dans ces métiers, en plus, si l'enfant a accès, ce qui n'est pas encore le cas pour les petits, mais dès qu'ils sont un peu plus grands, aux médias, avec tout ce qu'on voit, je pense à des papas de CRS actuellement, des papas de gens qui sont censés, dont le métier est de garantir la sécurité, qui sont quand même attaqués très violemment, c'est extrêmement anxiogène pour eux, ils ont peur, il y a des blessés, il y a beaucoup de situations où l'enfant a peur pour son parent, quel que soit le métier. Il y a des métiers plus complexes parce qu'il y a un secret qui est posé sur les activités des professionnels pour des raisons de sécurité d'État. Et là, c'est un peu plus difficile.
Alors justement, Magali vous demande, son mari est membre du GIGN et il ne veut pas dire à ses enfants qu'il fait un métier à risque. Est-ce qu'il faut leur mentir, comme lui le préconise, ou il faut leur dire les choses?
Alors, je suis pas du tout favorable au mensonge, ça vous le savez bien. Je pense qu'il vaut mieux dire les choses, mais dire, ça ne veut pas forcément dire tout dire.
Les métiers. Il ne peut pas tout dire, GIGN.
Voilà, c'est ça. De toute façon, il n'a pas le droit de tout dire. Pour le GIGN, il n'a pas le droit de tout dire. Mais dire qu'il n'y a pas de risque si papa décède, maman est une menteuse. Donc ça sera pire que tout.
Oui, c'est ça.
Et le zéro risque, malheureusement, n'existe pas, on le sait. Tous les métiers ont des risques. Vous prenez votre trottinette dans les grandes villes, il y a des risques.
Oui.
Mentir, c'est toujours compliqué. Il vaut mieux dire voilà, il y a un risque, mais je fais tout pour gérer le risque.
Merci à Hélène Romano, merci à Joséphine et merci à vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles.